Coucou les nénés, comment ça va? Bienvenue dans Allez Néné, le podcast des mamans noires et multiculturelles. Aujourd'hui, j'ai été à la rencontre de Syrah. Elle a 37 ans et c'est l'heureuse maman d'une petite fille de 4 mois et demi. Elle adore le basket, qu'elle pratique depuis presque 20 ans maintenant. Et ensemble, on va discuter de son installation au Sénégal, de sa grossesse et surtout de sa nouvelle condition physique. Syrah va nous dire comment on se sent quand on passe de près de 3 séances de sport par semaine à 9 mois de calme plat. Et comment est-ce qu'elle se sent aujourd'hui dans ce nouveau corps qui, après avoir porté la vie, doit apprendre à revivre. Nous avons également parlé du postpartum, parce que Syrah a eu la chance d'être retournée vivre chez sa maman et de vivre un postpartum traditionnel sénégalais. Elle va nous raconter son expérience qui est très enrichissante. J'espère que cet épisode vous plaira, et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou à venir en discuter sur Instagram dans les commentaires, ce sera avec grand plaisir. Bonne écoute! Coucou Syrah, comment tu vas?
Ça va très bien, merci. Et toi?
Ouais, ça va, je te remercie. Alors Syrah, tu es connue sur Instagram comme The Lady Hoop, une fan de basket et hôte du podcast Women Sport Stories. Et aujourd'hui, tu es venue nous partager ton quotidien de maman, tu es venue nous parler de la réappropriation de ton corps après la grossesse et de ta nouvelle vie au Sénégal.
C'est ça.
Super. Alors Syrah, comment tu vas?
Eh bien, ça va très très bien. J'ai accouché aujourd'hui à 4 mois et demi. Ouais. 4 mois et demi. Elle va avoir 4 mois et demi et on est venu au Sénégal le 1er avril, donc elle avait un peu moins de 3 mois. Et non, elle avait 3 mois et demi, elle avait un peu moins de 4 mois. Et puis ça va très bien, on s'est bien adapté, il fait beau, il n'y a pas de contraintes, de restrictions sanitaires et tout, du coup, on est assez libre de faire ce qu'on veut, d'aller au resto.
La chance.
Ça va plutôt bien.
Ah, c'est cool, c'est super en tout cas. Alors là, j'ai fait une petite présentation de toi, mais est-ce que tu peux quand même te présenter un peu plus que ce que j'ai fait?
Ouais, alors je m'appelle Syrah, j'ai 37 ans et j'ai une fille du coup de 4 mois et demi. Donc, j'ai été journaliste sportive pendant plusieurs années, pendant une bonne quinzaine d'années. Je me suis orientée vers la communication digitale, toujours dans le sport du coup, et notamment dans le basketball, spécialisée dans le basketball. Et je me suis installée au Sénégal en septembre dernier. En septembre, donc j'étais enceinte. Je suis juste rentrée accoucher en France. Mm-hmm. Et je suis revenue ensuite quand ma fille avait 3 mois et demi. Même 3 mois, je crois. C'était le temps de faire les tout premiers vaccins. Et puis voilà.
Cool. Alors là, on va faire un bond en arrière. Tu es née à Creil et tu as grandi entre Reims, Laval et Paris. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton enfance?
Ouais, du coup, je suis née à Creil. On n'est pas resté très très longtemps à Creil. Je crois qu'on a resté un an, je me souviens même pas, on est resté un an. Après, mon père, il a été muté. Mon père travaillait chez Valeo dans les usines de moteurs de voiture. D'accord. On a déménagé à Reims et j'ai grandi là-bas. J'ai fait toute ma primaire, enfin maternelle et primaire, du coup. Ensuite, on a déménagé à Laval. Mon père déménageait souvent parce qu'il était souvent muté. Donc, on a déménagé à Laval dans l'ouest de la France, donc complètement déjà à l'opposé et puis même au niveau de la ville, genre à Reims, on était beaucoup de Sénégalais, beaucoup de familles d'Afrique de l'Ouest. Et à Laval, on devait être deux familles Renoir.
Ouais. Ah oui.
Au lycée, on était les seuls Noirs du lycée avec mon frère, je me souviens. C'était assez spécial, mais moi, j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup cette ville. Et je me suis fait, en plus, j'ai fait mon collège et mon lycée là-bas. Donc, c'est au collège et au lycée que tu te fais, de tes amis, etc. Donc,
ouais, tu te construis.
Ouais, là-bas, je me suis fait mes potes. Et puis surtout, c'est là-bas que j'ai commencé le basketball. Mm-hmm. J'ai commencé le basketball. Ensuite, on est retourné à Reims juste avant mon bac. Et je pense qu'on est retourné à Reims parce que à la base, du coup, c'est une petite ville, il n'y avait pas beaucoup d'options au niveau études supérieures, il fallait forcément sortir de Laval et on a déménagé l'année où mon frère et moi on passait le bac. Donc du coup, je pense que mon père il s'est dit on va retourner à Reims comme ça. À Reims, il y a plein d'universités, comme ça ils n'auront pas besoin de partir une fois qu'ils auront leur bac. Et voilà, donc je suis rentrée à Reims et je me suis mise encore plus dans le basket. parce que pour le coup, je me suis fait des potes dans le basket et du coup, voilà, c'est devenu mes meilleurs potes. On traînait ensemble tous les week-ends, les vacances, on partait en road trip pour le basket, on allait faire des tournois, etc. Un peu partout en France et puis parfois à l'étranger, genre à Amsterdam, etc. Et puis voilà, du coup, je me suis mise à fond, 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 fond dans le basket quand je suis revenue sur Reims. Et une fois que j'ai eu mon bac à Reims, j'ai fait 2 années de DEUG en maths. Après, j'étais en fait, la fac des sciences était au même endroit que la fac de sport. Et
D'accord. Ça,
du coup,
c'était le bon plan pour toi.
je passais pas mal de temps à la fac de sport entre deux cours. Et puis voilà.
Et tu as aussi fait un an en Erasmus. Là, tu es parti en
Ouais.
Grèce. Donc, c'était comment là-bas?
Alors la Grèce, c'était en fait, donc j'ai passé mon DEUG de maths et je suis partie de Reims parce que j'ai été prise dans une formation, c'est une formation équivalente aux écoles d'ingénieurs en informatique, donc à Paris. Donc c'est là que je suis arrivée en région parisienne, c'était à Créteil, je suis arrivée en région parisienne à ce moment-là, 2 ans après mon bac, je crois. Et donc là, j'ai suivi un cursus donc DEUG, licence, donc j'avais déjà le DEUG, donc licence, master. Et ma dernière année, je l'ai faite en Erasmus. Et à la base, ce que je voulais, alors l'idée à la base, c'était d'aller soit au Canada, soit aux États-Unis pour suivre du basket
Ah bah
encore plus,
oui,
tout
ouais,
en
la
étant en
base.
Erasmus.
Ouais.
Voilà. Sauf que je me suis prise un peu tard et du coup, il n'y avait plus de place au Canada. Bon, les États-Unis, c'était très compliqué. Le Canada, il n'y avait plus de place. Et donc, les deux options que j'avais, c'était la Grèce et la Finlande. Moi, je suis
D'accord.
quelqu'un qui aime beaucoup le soleil. Donc,
Ouais.
autant dire que la Finlande, ça n'a pas du tout été une option. Et la Grèce, le truc, c'est que l'année de mon Erasmus, il y a une compétition qui s'appelle l'Euroleague. Et ça équivaut, en basket, ça équivaut à la Champions League en football. Donc,
D'accord.
c'est une compétition avec les plus gros clubs européens. La phase finale, donc demi-finale et finale, se déroulait en Grèce cette année-là.
Ah,
Donc je me suis
d'accord.
dit, bah, ça ne peut pas être le hasard.
C'est clair.
Du coup, bah, j'ai fait mon Erasmus là-bas. Et du coup, bah, j'ai été sur place pour. Et en plus, à ce moment-là, j'avais commencé à écrire pour un magazine. J'avais commencé un peu à être journaliste, entre guillemets. Et du coup, bah, j'étais au plus près de la compétition. Et en plus, cette année-là également, il y avait des grosses grèves étudiantes, et des grosses grèves étudiantes en Grèce, à Athènes. Du coup, toutes les facs étaient fermées. Donc, et bah, du coup, on n'a pas eu cours. On avait un dossier à rendre pour pouvoir valider notre année, parce qu'on devait quand même être noté et repartir avec une note. Du coup, moi, j'avais un dossier de 10 pages à rendre. J'avais rencontré plein de gens. J'étais dans une coloc, on était 5. Du coup, on a beaucoup voyagé, nous 5. On a beaucoup voyagé dans toute la Grèce, dans le nord, dans le sud, dans les îles. En plus de la Grèce, il y a plein de choses à voir.
Ouais.
Et puis, on avait le statut étudiant, donc on payait pas trop, trop cher. Donc, tu vois, tout ce qui est transport et tout, c'était au tarif étudiant. Tous les avantages étudiants qu'on avait. Et puis, bah, moi, j'étais dispo pour suivre la compétition, les finales de Final Four Euroleague, on les appelle comme ça. Donc, c'était une de mes meilleures années. De mes meilleures années.
Ah, c'est cool, ouais, je vois ça. Hein.
Ouais.
Enfin, là, pour le coup, c'est vraiment le bon plan. Parce que t'as pu profiter de tout ce que tu aimais. Et en plus, tu n'avais pas école. C'est génial.
C'est tout à fait ça.
Ah, c'est top. Alors là, on va rentrer un petit peu plus dans le sujet. On va parler de ta grossesse. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? Comment est-ce que tu as vécu ta grossesse?
Alors, ouais, ça s'est hyper bien passé. Je suis un peu
Ouais.
nostalgique. Maintenant que j'ai accouché, je suis un peu nostalgique de ma grossesse. Et ça s'est vraiment bien passé. Moi, je suis tombée enceinte pendant le ramadan de l'année
Ouais.
dernière. Donc, je jeûnais et je l'ai arrêté parce que c'était le tout début et que bon, ma gynéco m'avait dit qu'il valait mieux arrêter, pas prendre de risques et tout, parce que c'est le début. Au début, j'ai eu des nausées pendant. Eh ben, j'ai eu des nausées pendant le premier, des nausées du premier trimestre. Et pour le coup, elles se sont arrêtées le jour où je suis passée dans mon deuxième trimestre. Donc, ça veut dire
D'accord.
que c'était genre le jour de la fin de mon premier trimestre. Et c'est marrant parce que c'était ce week-end-là, je l'ai passé chez ma mère.
Ouais.
Et je lui avais dit que j'avais des nausées et tout. En fait, j'avais des nausées. Du coup, moi, je déteste vomir. Du coup, je vomissais pas. Mais j'arrivais pas à manger. J'arrivais pas à voir comment je pouvais manger sans avoir les nausées et tout. Du coup, préférais pas trop trop manger, enfin, c'était un peu compliqué à gérer. Et ce week-end-là, j'étais chez elle, et du coup, ce week-end-là, mes nausées, elles sont arrêtées. Donc ma mère, elle s'est mise en tête que c'était grâce à elle. Donc, je sais pas si c'était grâce à elle ou si c'était la fin du premier trimestre, mais en tout cas, à partir de ce jour-là, j'ai eu plus eu aucune nausée.
On va dire que
ça s'est
c'était
super
grâce
bien
à
passé.
elle. On
Voilà.
va dire que
Donc, au
c'était
cas où
grâce à
elle
ta
écoute.
maman. Ça leur fait
Non,
toujours
mais écoute.
plaisir.
Écoute. Non, mais du coup, ça s'est hyper bien passé. J'ai pas eu, moi, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup. Enfin, je fais plein de trucs à gauche, à droite. Même dans une journée, je fais plein, plein de trucs. Et je voyage pas mal. Ben, mes parents habitent à Reims. Donc, j'allais souvent les voir. Ma soeur, elle est en Belgique. Elle aussi la voir. Et puis, avec le taf, je voyage beaucoup en Europe et en Afrique. Et du coup, la grossesse, ça s'est hyper bien passé. J'ai réduit, moi, de moi-même, je me suis dit, bon, je vais réduire le rythme. Et puis, en fait, j'étais en forme. Franchement, ça s'est vraiment, vraiment bien passé. J'ai pas eu de complications, pas eu de. Et puis, je l'ai bien, bien vécu. Et en plus, pendant ma grossesse, du coup, je me suis installée au Sénégal en septembre. Donc, j'avais passé les 4 mois. C'était à 5 mois, je crois. Et puis, je crois que le soleil du Sénégal, le rythme qui est beaucoup plus calme que le rythme parisien, eh ben, je pense que ça m'a fait le plus grand bien et que ça a aussi contribué au fait que la grossesse se soit vraiment bien passée. Parce que je me souviens, je suis rentrée un week-end à Paris en octobre et ce week-end-là, je me souviens, j'étais partie aux urgences parce que je sentais plus la petite, du coup j'avais un coup de panique et j'étais à les urgences et tout. Et ils m'ont dit, oh non, c'est juste un peu de stress. Et le médecin m'avait dit, bah, en plus, là, vous êtes rentré à Paris, du coup, si vous avez bougé toute la journée et tout, ça se trouve, vous l'avez senti, vous n'avez pas fait attention. Et j'ai tout mis sur le coup du stress parisien.
Bah
Je
oui.
me
Ah
suis
mais
mis les
c'est
transports et
sûr.
tout.
C'est
Mais
sûr.
en tout cas, je pense que le fait d'être au Sénégal, ça a largement contribué au fait que ce soit bien passé, parce que j'étais vraiment posée, j'avais pas de. Soit je bossais la journée, après le soir, je rentrais, c'était avec ma cousine chez moi. On était tranquilles, toutes les deux, à la cool. Vraiment, c'était vraiment bien.
C'était cool, quoi. Et justement, tu dis que tu étais en forme et bah justement, tu as travaillé même quasiment jusqu'au bout de ta grossesse.
Ben ouais, en fait, le jour où j'ai accouché, j'ai une réunion à 17h. De 17h à 18h, j'étais en réunion téléphonique, du coup. Et à 19h, j'ai mon contraction. Du coup, j'ai envoyé des messages parce que j'ai plusieurs clients dans la com. Et du coup, j'ai envoyé des messages à tout le monde pour dire, bon, je suis à couche là. Donc,
Salut.
j'ai préparé plein de mails pour dire les posts sont là, les contenus sont là et tout. C'est tous les mails que je devais envoyer dans la semaine parce que ça allait arriver que j'ai accouché une semaine pile avant mon terme. Et je m'étais dit, bon, le week-end, j'enverrai les mails. Pour préparer dans mon absence, tu vois. Et en fait, j'ai dû le faire en 1 heure parce que mes contractions, elles sont arrivées le jour où, un jour où je travaillais au final.
Donc en fait, en gros, pendant que tu avais tes contractions, tu continues à travailler en envoyant des mails en disant à chacun ce
Ouais.
qu'il doit faire,
Après, c'est les premières contractions.
quoi.
C'est le tout début des contractions, donc elles étaient encore espacées et ça me
Ouais.
faisait mal, mais sans que ce soit violent.
Mais ça
Après,
allait.
quand j'ai eu les contractions et que ça se rapprochait et tout, là, je pouvais rien faire du tout. Là, je pouvais vraiment rien faire. J'arrivais à peine à passer un coup de fil ou quoi, donc ouais, c'était chaud.
Voilà, ça y est, tu étais en travail de toute façon, tu devais rester focus
Ouais.
sur ton accouchement.
C'est ça.
Et donc, autre chose, c'est que là, tu as accouché une semaine à l'avance. Et donc, tu m'avais dit que tu avais fait une séance d'acupuncture justement pour t'aider à préparer un petit peu ton travail. Tu peux nous raconter
Ouais.
comment c'était?
Ouais, alors moi j'aime bien tout ce qui est, j'aime bien tout ce qui est nouveau et tu sais, les techniques, les massages, les séances de. J'avais fait quoi? J'avais fait de la. Comment ça s'appelle? J'avais fait du magnétisme, j'avais fait de l'hypnose. J'aime bien toutes les techniques, les différentes techniques de relaxation, etc. Et ma sage-femme, elle m'avait dit, en fait, j'avais donc à 1 semaine avant le terme, t'as un dernier rendez-vous, un dernier contrôle et j'avais discuté avec ma sage-femme, elle m'avait dit. Donc, du coup, dans une semaine, si t'as pas accouché, moi, j'étais au diaconès, à la maternité du diaconès, et au diaconès, 48 heures après, si t'as pas accouché, il déclenche. Donc, elle avait commencé à me parler du déclenchement et tout, et ça m'avait. Alors, autant pendant toute ma grossesse, je n'avais pas du tout paniqué, toi-même, je lisais vite fait, j'écoutais certains trucs et tout, mais pas tant que ça, pour pas justement mettre la pression et tout. Autant quand elle m'a dit, ouais, potentiellement on déclenchera, ça m'a travaillé en tout cas. Et du coup, je me souviens qu'on m'avait dit l'acupuncture, ça fait du bien, ça fait tant, etc. Et donc, ce jour-là, donc, j'allais faire un rendez-vous, je suis allée faire de l'acupuncture, c'était la première fois et tout, j'étais contente. Et la nana était super cool, c'est une sage-femme de Bichat, qui en même temps avait son cabinet d'acupuncture. Et elle m'a dit, bon, bah, je vais vous faire le point bébé zen, c'est un point pour que le bébé soit zen, et puis un point pour aider au déclenchement de l'accouchement. Donc, elle m'avait fait. Et puis moi, c'était la première fois que j'allais faire de l'acupuncture et tout, et même si j'aime beaucoup toutes ces nouvelles méthodes, je reste sceptique jusqu'au jour où, tu vois, où j'ai la preuve que ça marche, tu vois. Et ben, du coup, j'ai eu ma séance d'acupuncture à 17h, de 17h à 17h30, à 18h, j'avais mon call avec mon collègue, et à 19h, j'ai eu mes contractions. Du coup, j'ai envoyé un mail à la... J'ai envoyé un mail à la sage-femme, elle m'a envoyé un par mail, elle m'a envoyé sa facture. Et du coup, je répondais, bah, j'ai des contractions, donc ça marche.
Je paye.
Ouais, c'était grave efficace, du coup. Et puis pareil, le point bébé zen, elle m'a dit, ouais, c'est un point bébé zen, c'est un point qui fait que tu as un bébé calme. Mm-hmm. Et puis bah, pour l'instant, elle avait 4 mois et demi, elle est hyper calme.
Oh là là.
Voilà.
Ah, mais non, mais là, par contre, tu viens de donner une information de dingue.
J'ai donné à tout le monde maintenant.
C'est clair, c'est trop bon à savoir. Vous voulez un bébé zen, faites de l'acupuncture.
J'ai été réceptive au point bébé zen et au point, et au point accouchement.
Et à l'accouchement. Non, c'est cool. Ouais. Et alors, ton accouchement, comment ça s'est passé?
Eh ben, ça a été, moi, j'avais pas, j'avais lu pas mal de trucs, enfin, j'avais lu pas mal de trucs, pas, c'est pas vrai, j'avais pas trop lu, j'avais lu juste un bouquin sur l'accouchement. Je sais plus ce que c'est, la couverture, elle est jaune, là. Tu sais, c'est un bouquin dessiné, c'est une espèce de bande dessinée. Je sais plus, faudrait que je retrouve.
Ouais, là, je peux pas te dire.
Ouais. Et, du coup, j'avais pas lu trop de trucs dessus, et j'avais juste écouté des épisodes ici et là d'accouchement, de grossesse, mais même avant que je sois enceinte, j'écoutais déjà certains podcasts, bah, dont le tien d'ailleurs. Yeah. Et donc du coup, j'avais pas de panique ou quoi par rapport, j'avais pas d'appréhension par rapport à l'accouchement. Mm-hmm. En plus, la sage-femme que j'avais, c'est une des meilleures potes de ma sœur. Ah ouais, du coup, pendant toute ma grossesse, elle m'a vachement suivie. Enfin, je discutais avec elle, soit des fois à 1h du matin, j'envoyais un message, ça me répondait, enfin vraiment. Et le soir où j'ai accouché, d'ailleurs, elle ne travaillait pas, je l'ai appelée et elle est venue. Et donc, du coup, alors, 2 semaines avant, on avait fait un monitoring. Elle m'a dit, est-ce que tu as des contractions? Et je lui ai dit, je ne les sens pas du tout. Et elle m'a dit, bah, pourtant, tu contractes de ouf. Et du coup, dans ma tête, je me suis dit, ah, c'est cool, en fait, ça fait pas mal. Et le jour où j'ai eu mes contractions, c'était super mal.
T'étais pas prête.
Super mal. J'étais pas prête du tout. Et quand j'avais un peu mal, quand elles étaient espacées, donc j'avais mal, mais elles étaient espacées. Du coup, ça durait pas longtemps et c'était espacé. Oui. Mais elles sont vite passées, je suis vite passée à 5 minutes d'intervalle entre chaque contraction. Et là, ça veut dire qu'en fait, t'as ta contraction qui me tuait. Et tu respires 2 minutes et après, t'as une nouvelle contraction qui arrive. Ouais. Et elles sont encore plus vite passées à 2 minutes d'intervalle. Et là, c'était ouf. Et là, c'était ouf parce que j'avais pas le temps de me remettre de ma contraction, que je suis partie déjà dans une nouvelle contraction. Donc, j'ai hyper mal, j'ai appelé ma sage-femme, je lui ai dit, c'est bon, j'arrive. Elle m'a dit, non, attends un peu. Elle m'a dit, là, tant que tu peux me parler au téléphone, ça veut dire que t'es dans le travail, mais tu peux encore prendre le temps. Et en plus, j'avais pas eu, ma poche de doigts, c'était pas percée. Donc, du coup, elle m'a dit, bah, prends un bain. Elle m'avait donné plusieurs étapes. Elle m'a dit, prends un bain. Si ça va mieux, bah, tant mieux. Et si ça va pas mieux, prends un passe-fond, je crois, m'avait dit. Prends un passe-fond, tu me diras si ça va mieux, tu m'appelles à partir de là. Et je vais pour prendre un bain, et en fait, j'ai pas pu, parce que j'avais trop mal. Donc, j'arrivais pas à rester, soit assise en place, dans le bain.
Et puis même, il y a tout le stress, en fait, de dire, je peux accoucher à tout moment, je suis toute seule à la maison, enfin.
Ouais, après, je suis quelqu'un qui est pas du tout stressé.
D'accord.
Donc, alors là, je suis quelqu'un de très, très calme, je suis pas vraiment stressée, surtout en situation de toi, d'urgence, de stress et tout, je suis quelqu'un de relativement calme. Et puis, j'avais appelé mon mari, du coup, pour qu'il rentre. Et il n'était pas encore entré. Du coup, je suis passée à l'étape space, on dirait. Mm-hmm. Et j'étais sur mon ballon, le ballon de grossesse, là, les gros ballons. Et voilà, j'ai douillé par mes contractions. Et donc, moi, je n'ai pas rappelé ma sage-femme parce que je me suis dit, bon, elle va me prendre pour une chochette et tout. Donc, j'encaissais. Et au bout d'un moment, j'avais trop mal. Et en fait, je pense que mon mari, ça lui faisait plus mal encore de me voir avoir mal qu'autre chose, quoi. Donc, du coup, c'est lui qui a appelé et qui a dit, bon, bah là, on arrive. Du coup, et puis en plus, c'est quelqu'un qui c'est une pote, Madina, qui nous déposait. Donc, d'accord. Du coup, le temps que je l'appelle et qu'elle vienne, je m'étais dit, bah, tu vois, ça veut dire qu'on ne sera pas direct à la maternité. Du coup, j'ai appelé ma sage-femme, je lui ai dit, j'arrive. Elle me dit, bon, bah, vas-y, moi aussi, j'arrive, du coup, comme elle ne travaillait pas. Ouais. Donc, elle est partie, j'ai appelé ma pote. Ma pote, elle est venue nous chercher. Pareil, bah, après, j'ai discuté avec elle. Après, elle a halluciné de me voir, avoir mal. Je ne suis pas quelqu'un qui se plaint beaucoup, en fait. Du coup, elle me voyait avoir mal et tout. J'avais déjà préparé ma valise quelques jours avant parce que une de mes meilleures potes, elle m'avait conseillé. Elle sait que je suis quelqu'un de pas stressé. Du coup, elle m'avait mis un coup de pression. Elle m'avait dit, prépare ta valise, tu peux accoucher à tout moment. Et du coup, voilà, donc les contractions très, très compliquées à gérer. Franchement, le parcours de la maison à la voiture, là, mais j'ai dû m'arrêter dans l'ascenseur. Déjà, je me suis arrêtée. En plus, la seule position qui me soulageait entre guillemets, c'était à quatre pattes.
Oh là là, donc là il fallait marcher.
Dans la rue.
Oh là là, ma pauvre.
Du coup, je monte dans la voiture. Alors, ma pote, elle conduit. Je sentais qu'elle n'était pas très sereine. Bah, elle était un peu stressée. Et mon mari, je pense qu'il le sentait. Tout le monde était stressé, en fait. Et du coup, ils se parlaient entre eux pour se calmer entre eux. Ouais. C'était assez drôle. Et je suis arrivée à la maternité et on m'a mis la péridurale direct. Et ma sage-femme m'a dit, ah, bon, vous manquez de parce que tu es déjà à 5.
Donc là, tu aurais pu accoucher chez toi, quoi. Si ton mari t'avait pas mis de pression.
Sans péridurale, surtout.
Moi aussi.
Donc, du coup, je suis arrivée. Elle m'a dit, ouais, l'anesthésiste, elle est dispo, là. Est-ce que tu veux la péridurale? Et j'ai dit, ouais. Ça, c'est une leçon que j'avais bien retenue des cours d'accouchement, c'est que l'anesthésiste, elle peut ne pas être dispo quand toi, tu veux la péridurale. Donc, du coup, si elle est dispo quand... Faut bien que tu calcules ton coup. Voilà, elle m'a mis la péridurale. Et franchement, du moment où elle m'a mis la péridurale, bah, j'ai plus rien senti. J'ai appelé mes sœurs, j'étais au téléphone avec mes sœurs et tout. Franchement, j'aurais pu. La péridurale, c'est magique.
C'est merveilleux.
Ah, c'était ouf. Je sentais. Je les sentais, mais j'avais pas mal.
Ouais.
Et toi, du coup, bah, voilà, j'étais avec mes sœurs au téléphone. Mon mari dormait juste à côté, là. Et puis voilà. Après, je suis passée assez vite de... Attends, en une heure, je suis passée de 5 à 6.
Ah ouais.
Et après, de 6 à 10, ça s'est fait hyper vite. Non, j'ai mis 2 heures pour passer de 5 à 6 et 1 heure pour passer de 6 à 10.
Ah oui, effectivement. Donc,
c'est passé assez vite, ouais. Et puis après, donc, je suis arrivée à 2 heures à l'hôpital. Et puis après, par contre, du moment où elle m'a percé la poche, elle m'a dit, bon, voilà, je vais percer la poche des os. Elle m'a percé, elle m'a expliqué ce qu'on allait faire pour la pousser. Et puis, j'ai poussé en 30 minutes.
Et ça y est.
Une 30 minutes après, elle est sortie, ouais.
Et t'étais une maman.
Elle est sortie. Et ouais.
Oh.
Elle est sortie, elle m'a mis dans les bras. C'est moi qui j'ai fini de la sortir.
Ah, tu l'as prise?
Elle m'a mis dans les bras, ouais, je l'ai prise. Et du coup, j'ai sorti et tout. Et moi, je me dis, tu vois, avant d'accoucher et tout, je me dis, bon, de toute façon, je suis pas quelqu'un qui pleure, tu vois. Je vais pas pleurer, mais par contre, mon mari, il est assez sensible. Du coup, je me suis dit, il va pleurer et tout. Et puis en fait, moi, j'ai pleuré.
Bah oui. Bah, c'est vrai que c'est tellement éprouvant. Enfin, déjà, il y a tout ce qui s'est passé avant. Il y a toute la pression qui retombe et l'attente des 9 mois d'avoir eu ton bébé. Mais une fois que tu l'as dans les bras, c'est quelque chose, hein.
Ouais,
c'est indescriptible.
Et tu vois, de toute façon, tant que tu ne vis pas, tu ne te rends pas compte de...
Ouais.
Enfin, je sais pas, tu accouches, quoi. Là, elle sort de toi, tu as passé 9 mois. Enfin, c'est à chaque fois que je repense à son rêve, je me dis, c'est un des warriors, quand même. Je pense à toutes ces femmes, puis toutes ces femmes qui accouchent sans péridurale. Mais ça, après, sans péridurale, j'hallucine encore.
Sinon,
mais même, tu vois, dans des pays où il n'y a pas de... Où il n'y a pas... Je ne sais pas, du coup, si c'est mieux ou pas, je ne saurais pas dire, mais toi, tu as des pays où tu n'es pas aussi médicalisé, donc tu n'as pas tous ces contrôles, toutes ces échographies, tous ces monitorings, etc. Donc, je sais pas si c'est moins bien parce que du coup, tu contrôles moins, donc tu ne sais pas trop, ou si c'est bien parce qu'en même temps, tu ne mets pas des coups de panique toi, à chaque fois. Je sais pas, je pense que c'est des pays où c'est comme ça et de toute façon, c'est des femmes qui ne connaissent pas forcément de tout médicaliser, donc elles savent pas ce que. Je sais pas.
Ouais, non, je vois ce
Mais
que
en
tu
tout
veux
cas,
dire.
c'est quelque chose d'assez incroyable.
Non, c'est clair. Et alors, donc là, on va parler de ton postpartum, justement, de comment tu t'es réapproprié ton corps, parce
Ouais.
que tu n'as pas fait de sport pendant toute ta grossesse. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment tu t'es sentie après ton accouchement?
Alors, j'ai pas fait de sport de toute ma grossesse, mais juste les 3 premiers mois, j'ai fait du. En fait, c'est tombé sur le confinement. Donc, toi, c'était la mode du yoga à la
À la
maison,
maison.
etc. Donc, j'ai fait ça. J'ai fait du yoga à la maison. Alors, il faut savoir qu'avant, du coup, moi, je fais du sport hyper souvent. Il y a des semaines où j'en fais tous les jours, mais je fais du basket au moins 3 fois par semaine. Et là, du coup, je suis passée de 3 fois par semaine à rien du tout. De toute façon, avec le confinement, c'est sûr. Mais j'ai fait du yoga. Et après, je suis assez, même si je suis très active, je suis assez flemmarde. Et pour le coup, le yoga, ça a été 3 mois et après, ça m'a saoulée. Donc, du coup, j'ai arrêté. Et en plus, comme je bougeais pas mal, je me dis, bah, ça me fait une activité physique
La
de marcher, de
droite à
bouger,
gauche.
etc. Ouais. Et du coup, j'ai pas fait de sport. Mais dans ma tête, je m'étais dit, bah, vu que je suis sportive et qu'en plus, pendant ma grossesse, je suis en forme, bah, je ne vais pas mettre longtemps à reprendre le basket derrière. Mais c'est vite 2, 3 mois, tu vois. Et j'ai accouché. Donc déjà, la maternité, les 2, 3 jours de la maternité, là, mon corps, là, je me suis dit, mais oh, c'est un truc de ouf. J'ai l'impression qu'on m'a roulé dessus.
Ouais.
Et ça, j'étais pas prête. J'étais un peu surprise. Mais je m'étais dit, bon, tu viens d'accoucher quand même, t'as
C'est
porté
normal.
un 9 mois, t'accouches, c'est normal. Du jour au lendemain, tu vas pas mieux. Mais n'empêche que quand tu regardes, des fois je regarde sur Instagram et tout, des meufs qui ont accouché et qui font des vidéos encore à l'hôpital et tout, tu vois, elles ont l'air bien, tu vois.
Elles
Je
sont
me dis, bon, c'est les
fraîches.
réseaux. Voilà, je me dis, c'est les réseaux sociaux.
Ouais.
Et du coup, je me dis, bon, une semaine, je pense que, tu vois, le corps, faut qu'il se remette, quoi. Sauf qu'au bout de 2 semaines, 1 mois, ben, je marchais toujours pas, toi, normalement. Et ça, j'étais grave pas prête. Tu vois, genre, pour aller à la PMI, qui est à 6 minutes en GPS, 6 minutes en chrono GPS de chez moi, ben, je mettais 15-20 minutes.
Ouais, tu marchais
J'avais
tout
trop mal, en
doucement.
fait. Et puis, c'était un effort. En plus, j'avais mal, c'était un effort. Et même chez moi, d'une pièce à une autre, j'avais mal et j'étais grave pas prête. Pour moi, c'était. Parce que j'étais pas prête du tout. Du coup, je demandais à gauche, à droite si c'était normal, etc. Et je pensais que je reprendrais le sport assez vite. Et tu vois, là, aujourd'hui, j'ai toujours pas couru. Hein. J'ai toujours pas. Là, aujourd'hui, je marche normalement.
Oui.
Ça fait 4 mois, donc je marche normalement. Il y a encore des jours où j'ai mal, tu vois.
Oui.
Il y a encore des jours où si je force trop, j'ai mal, etc. Mais je pense que j'ai dû mettre 1 mois et demi, 2 mois à redevenir bien, genre à pouvoir sortir longuement sans me dire, putain, là, si je dois marcher trop longtemps et tout, ça ne va pas le faire, etc. Et là, aujourd'hui, ça va. Mais j'appréhende le jour où je vais faire mes premières courses. En fait, je ne sais pas si je vais reprendre direct le basket ou si je vais reprendre avec un peu de course d'abord parce que je déteste la course. Il n'y a
Ah.
pas de ballon, je déteste courir. Mais je me dis, il faut quand même que physiquement, parce que ça va faire un an que je n'ai pas fait de sport. Et il y a une différence entre un an sans sport et un an sans sport, mais un accouchement dans le créneau, tu vois. Franchement, c'est vraiment le truc sur lequel c'est vraiment le truc qui m'a le plus surprise, qui m'a le plus frustrée aussi. Parce que du coup, je savais pas du tout comment. Bah, je savais pas si c'était normal. Et puis même, toi, ma soeur, elle me dit, tu viens d'accoucher, c'est normal et tout. Mais toi, mon corps, d'habitude, je le connais et je sais ce dont je suis capable. Et là, je me suis rendu compte que ce corps-là, je le connaissais pas en fait. J'arrivais pas à le contrôler.
Ouais. Et est-ce que tu t'en veux de ne pas avoir fait du sport ou fait quelque chose qui t'aurait permis de pouvoir reprendre facilement le sport aujourd'hui? Ou est-ce que tu sais que de toute façon, dans tous les cas, peu importe ce que tu aurais fait, tu aurais été dans cette condition-là aujourd'hui?
Alors, je ne m'en veux pas parce que, bon, j'ai rarement des regrets, mais je ne m'en veux pas parce que je me dis que ça se trouve. Parce que tu vois, ma soeur, par exemple, elle m'a dit en plus le fait que tu étais vachement active, même en fin de grossesse, et ben, du coup, ça va peut-être fatiguer ton corps qui va mettre plus longtemps à se remettre.
T'as tiré
Donc,
sur
ça se
la
trouve, si
corde.
j'avais fait si j'avais fait du sport, ça se trouve, ça aurait été pire. Et ça se trouve, si j'avais fait du sport, ça aurait été moins pire. Du coup, je ne m'en veux pas parce qu'au final, bon, je me dis, bon, c'est fait, et puis voilà, non, je ne sais pas, peut-être que j'en prendrais peut-être plus loin, peut-être que toi, si c'était à refaire, en sachant cela, je m'envoie peut-être à la sage-femme ce qu'il faut faire, à la sage-femme ce qu'il faut faire pour se remettre plus vite. Après, ce n'est pas forcément reprendre le sport plus vite, c'est vraiment que mon corps aille mieux plus vite. Et le moment où ça allait mieux, c'est, tu sais, chez nous, tu passes un mois chez ta mère une fois que tu as accouché pour qu'elle prenne soin de toi, pour que tu fasses le moins de choses possible. Limite, tu as juste à allaiter ton bébé, c'est elle qui s'occupe, toi, c'est ma mère qui a changé les couches de ma fille, elle me faisait à manger, etc. Elle me faisait des massages au beurre de karité et ça allait mieux à partir de ce moment-là, en fait. Elle
D'accord.
massait le dos, le ventre et les jambes. Et franchement, à partir de là, ça a coincé avec et les massages et le fait que je ne fasse plus rien du tout, en fait. Parce que j'étais vraiment chez ma mère, je ne faisais rien du tout, du tout, du tout.
Donc là, tu
Et
t'es
du coup, c'est du
reposé.
repos. Ouais, du coup, c'est du repos. Donc, tu vois, tu me demandais si le fait de faire du sport avant d'accoucher, ça aurait facilité. Mais je me dis, ce qui a vraiment facilité, c'est le fait de me reposer après avoir accouché. Et toi, je suis allée chez ma mère un mois après avoir accouché seulement, parce que j'avais plein de trucs à faire à Paris, que nos rendez-vous c'était à Paris et tout. Mais du coup, est-ce que l'idée, c'est, est-ce que la solution, c'est pas de se reposer du jour où t'accouches à un mois, voire 2 mois, voire 3 mois après l'accouchement, tu vois?
Non, c'est vrai. Et puis, ce qui est bien, c'est que là, toi, tu as eu l'occasion de le faire. C'est quelque chose qu'on fait traditionnellement chez nous, mais c'est pas quelque chose qu'on va appliquer. Par exemple, tu vois, moi, j'ai accouché. Bah, je suis restée une semaine à l'hôpital. Après, je suis rentrée à la maison et ma mère, elle n'avait pas la possibilité de pouvoir venir vivre chez nous et moi, je n'avais pas la possibilité de vivre chez elle. Donc, enfin, j'avais pas eu cette chance de pouvoir me reposer, d'avoir les massages du ventre, tout ça, tu vois. C'est là, t'es direct, t'es à fond dans ton rôle de maman. Et ce que toi, tu as vécu, ce qui est bien, c'est que ça évite aussi tout ce qui est dépression postpartum, des choses comme ça, parce que tu te sens soutenue, t'es pas surmenée et t'as vraiment un vrai soutien.
Après, je sais que je suis privilégiée hein, parce que je vois la vie qu'on a ici. En fait, c'est un truc, parce qu'on la notre tradition là, c'est un truc que tu fais de toute façon quand tu es là au Sénégal parce que tu travailles pas forcément, donc tu peux t'arrêter pendant un mois et demi. Ta mère travaille pas forcément, donc tu peux t'arrêter pendant un mois et demi. Et puis nous, par exemple, chez moi, c'est un village, donc quand tu vas chez ta mère, c'est la maison qui est en face. Donc ça, tu peux le faire. Mais je sais qu'en Europe, en France, nos vies, elles sont tellement. Tu vois, ma mère, elle habite à Reims. Moi, je suis à Paris. Donc, ça veut dire que je suis partie un mois chez ma mère. Ça veut dire que mon mari, il n'a pas vu sa fille pendant un
Pendant un
mois.
mois.
Tu vois, c'est des situations qui font que tu peux pas forcément le faire. Je sais que je suis très privilégiée d'avoir pu le faire. Ma sœur, par exemple, elle a accouché un mois après moi. Sauf qu'elle, elle est en Belgique. Et avec la fermeture des frontières, personne n'a pu aller la voir pendant 2 mois.
Oh là là, la
Donc, tu vois,
pauvre.
pour le coup, elle n'a pas pu le faire. C'était sa deuxième fille. Donc ça va, mais tu vois, même si ça avait été sa première, elle n'aurait pas pu le faire. Donc je sais que je suis très privilégiée, mais pour le coup, avant même d'être tombée enceinte, avant même d'être mariée, enfin, depuis que je suis jeune, c'est vraiment le truc que je m'étais dit, je fais tout pour le faire en fait. Parce que c'est un truc qui me, dans nos traditions, alors autant je suis très, j'aime beaucoup toutes les traditions qu'on a, je sais qu'il y en a qui sont pas très bonnes, mais qui sont à jeter, et ça va pour les jeter, mais on en a beaucoup qui facilitent, il y a beaucoup de traditions, transmissions, cultures et tout, qui facilitent la vie des femmes. Et pour le coup, celle-ci, depuis que, moi, c'est, j'avais vu ma cousine, en fait. Ma cousine, elle avait accouché, elle était partie chez ma mère, quand j'étais plus jeune, et j'étais allée la voir, et du coup, je voyais ce qu'il fallait faire, etc. Elle m'avait raconté, ouais, je reste là un mois, on me fait à manger, machin et tout. Et franchement, depuis que je vois, je m'étais dit, mais moi, quand je vais accoucher, quelle que soit la situation, il faut que je puisse me mettre dans cette situation-là. Et ça, c'est vraiment un truc auquel je tenais vraiment. Et même au-delà du fait qu'on s'occupe de toi, il y a toute la partie où ta mère, elle te transmet tout son savoir, en fait, sur les enfants.
Oui.
Et toi, que ce soit sur l'allaitement, elle t'aide, elle t'assiste. Sur plein de trucs, des tips. Ma mère, elle a 6 enfants, donc toi, elle sait ça. Après, tout n'est pas... Tu vois, les générations sont différentes, donc il y a plein de trucs que moi aussi, je lui ai appris. Toi, tout ce qu'on... Le lait maternel, là, tous les bienfaits du lait maternel qu'on utilise pour le bain, pour les soins, etc. Mais elle ne savait pas. Et ça, pour le coup, c'est moi qui l'ai appris. Donc, il y a plein de choses. On est vraiment dans le partage, en fait. C'est pas... Elle ne m'impose pas ce qu'elle, elle a fait. On est vraiment dans le partage. Tu vois, elle, par exemple, quand on était plus jeune, elle utilisait Mustela parce que c'était le lait de... Enfin, c'était la marque pour les soins de bébé. Et sauf qu'en fait, Mustela, c'est une marque qui est... Les produits sont très sales, tu vois, ça ne sont pas très bio.
Pas recommandé pour les bébés,
ouais. Et donc, moi, je tiens absolument pas à prendre Mustela. Et il y a plein de fois, ma mère, elle m'a dit, oh, je vais l'acheter du Mustela. Ouais, je tenais à le faire parce qu'elle pourrait faire la référence.
Ouais.
Donc, du coup, on était vraiment dans le partage. Donc, au-delà du elle prend soin de moi, il y a tout ça, en fait, toute la transmission et tout. Et puis, en plus, moi, je devenais maman. Et du coup, c'est les premiers jours où on se parlait en... C'est pas la même chose quand tu parles à ta mère en tant que mère-fille et en tant que mère et mère aussi. Enfin, t'es mère aussi, du coup, tu partages d'autres choses, en fait. Et même quand elle me parlait et tout, j'ai l'impression, pas qu'elle me respectait plus, mais qu'elle me... Enfin, je sais qu'elle me parlait différemment, en fait, parce que maintenant, j'étais mère. Et donc, il y a plein de choses qu'elle me disait que peut-être moi, je prenais autrement. Mais elle aussi, j'ai senti une autre... C'est pas la même bienveillance, en fait.
Ouais.
C'est vraiment... Du coup, c'est vraiment un mois qui m'a fait le plus grand bien. D'ailleurs, quand je suis installée au Sénégal, je l'ai fait venir pendant 10 jours. Pour qu'elle m'aide aussi. Pour poursuivre le truc. Et c'est vraiment un truc qui m'a fait du bien. Mais je sais que je suis privilégiée. Parce que je sais que c'est compliqué à mettre en place... À mettre en place quand t'es en Europe.
Ouais. Et justement, en fait, là, ce que tu disais par rapport au fait que le lien avec ta mère change et que là, vous parlez de mère à mère, généralement, c'est la dernière question que je pose aux invités. Mais bon, là, vu qu'on en parle, je vais te la poser maintenant. Même si là, tu nous as parlé du postpartum que tu as vécu chez ta mère, est-ce que tu as une autre anecdote à nous partager vous concernant toutes les deux? Qui t'a marqué?
Elle m'en a donné plein, c'est plein de petits conseils. Dont un, parce que quand je vois ma fille, quand je la lave, tu sais, elle mange bien, du coup, elle a des bourrelets, notamment dans le cou. Et maman m'a toujours dit, à chaque fois, elle me dit, regarde, tu nettoies bien là, tu passes bien là et tout. Et en fait, elle me l'a dit à chaque fois qu'elle l'a lavé. Et dans la tête, je me disais, mais ça me l'a déjà dit, elle même l'a répété. Et du coup, à chaque fois, je vois ma fille. Et que je la lave, eh ben, je repense à ma mère qui, tu vois, je l'entends presque me dire dans l'oreille, lave bien tous les bourrelets parce que là, par exemple, quand elle vomit un peu, il y a du lait qui va se stocker là-bas et ça peut s'infecter, machin et tout. Donc, je lave très, très bien son cou, ses petits bourrelets. Ça, c'est bien fait. Et, non, après, c'est, comme je te disais, c'est sa transmission, tu vois, elle m'a appris à la porter au dos, à bien la placer, porter au dos, plein de petits conseils, je sais, je pense que je l'ai fait tellement machinalement que du coup, il n'y a pas un truc en particulier qui ressort. Mais non, c'est vraiment tous ces moments de partage qu'on a eu ensemble. Ce qui est marrant, c'est qu'elle me raconte, du coup, quand on parle, enfin, comme on a quand même passé un mois ensemble, elle m'a raconté des trucs qui, toi, que mes frères et sœurs et moi, on faisait quand on était petits, genre. Par exemple, sur l'allaitement, elle me disait, ah, bah, toi, t'as été pendant 2 ans, ton petit frère, il a été pendant 5 ans. Et tu vois, c'est plein de petites anecdotes qu'elle me raconte. Alors, je sais pas si elle les a déjà racontées, mais que j'écoutais d'une oreille et que ça ressortait dans l'autre direct. Ou alors, et si aujourd'hui, maintenant, toi, elle me les raconte et ça rentre et ça reste. Ou si vraiment, elle me les a jamais racontées et que du coup, elle me les raconte là. Soit dès qu'on fait un truc, vous faisiez ça. Genre, quand je lui dis, je sais pas quand est-ce qu'elle va commencer à manger, ben, elle me dit, oh, toi, t'as mangé du mafé, dès que t'as arrêté d'allaiter, t'as mangé du mafé direct, pas de pommes de terre, pas de bifon et tout, c'est mafé. Donc, il y a plein de, enfin, je trouve que ça nous a rapprochés d'une autre manière.
Ouais. D'ailleurs, tu disais que tu étais privilégiée d'avoir passé 40 jours chez elle, mais c'est juste même un privilège d'avoir sa maman encore et qui nous permet, enfin, qui nous transmet toutes ces choses, qui nous raconte ces histoires, parce que ça nous permet de nous construire en tant que maman et d'en apprendre aussi un petit peu plus sur nous, sur notre histoire personnelle, ce qu'on a vécu. Et même, voilà, quand elle a dit par exemple que ton frère il a été allaité pendant 5 ans, des choses comme ça, tu vois.
Ça, je m'en rends bien compte. Toi, moi, pour le coup, ma fille, elle a ses deux grands-mères.
Ouais.
Et en plus, on est deux ethnies différentes. Mon mari, il est beau et moi, je suis peul. Donc, du coup, c'est deux ethnies égales différentes. Du coup, il y a plein de choses que nous, on fait, que eux font pas, que eux font, qu'on ne fait pas. Du coup, je me rends bien compte que c'est un privilège. Et je dis à la Hamdoulilah tous les jours pour ça. Hein.
Ouais. Ouais, comme tu dis, alhamdoulillah. Et alors, j'ai une dernière question. Est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es sentie devenir mère?
Alors, j'ai toujours beaucoup aimé les enfants et j'ai eu beaucoup d'enfants autour de moi. Ma soeur, elle a une fille. Mes deux frères, j'ai trois nièces, bon, maintenant quatre. J'ai plein de potes, mes meilleurs potes et tout, qui ont eu des enfants. Et j'ai toujours beaucoup aimé les enfants. Et toujours, tu vois, mon mariage, c'est une anecdote que j'aime bien raconter. Mais à mon mariage, il y avait des trucs dédiés aux enfants. Tu vois, si j'avais pu inviter que des enfants, par exemple, je l'aurais fait. Mais là, j'étais obligée d'inviter les parents. Mais toi, il y avait des jeux dédiés aux enfants, j'avais des bonbons, j'avais des surprises, vraiment pour mettre bien les enfants. Mais je pense que je pense que j'étais prête à être mère et j'ai senti que je devenais mère. Je me demande si c'est pas le jour où je l'ai senti bouger dans mon ventre. Parce qu'il s'est passé un truc quand j'ai fait mon test de grossesse, il s'est passé un truc pendant toute ma grossesse, quand je voyais mon ventre sortir, plein de moments. Mais le moment où je l'ai senti pour la première fois, là, je m'en rappelle encore comme si c'était hier. Et du coup, je pense que c'est à ce moment-là, parce que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose dans mon ventre. Et je pense qu'il y a eu un autre déclic dans le jour où elle est sortie. Et là, ce qui est ouf, c'est que toi, comme je t'ai dit, j'ai plein de potes qui ont des enfants et à chaque fois, elles te disent, ouais, c'est vrai. Elles te racontent et tout, l'émotion, ce que ça fait d'avoir des enfants et tout. Mais en fait, quand tu le vis pas, tu te dis, ah, ça doit être ouf et tout, mais ça reste quelque chose d'illusoire. Mais alors, et après, quand tu l'es, tu vois, là, par exemple, souvent, je la regarde, ma fille, et je me dis, mais oh, comment tu peux autant aimer quelqu'un? Et
Grave.
j'ai trop de potes qui m'ont toujours dit. Et qui m'ont dit, ouais, et tu verras avec le temps, c'est encore plus. Et quand il y en a d'autres, c'est encore plus. Mais là, tous les jours, j'ai regardé tout et je dis, oh là là, mais des fois, t'as l'impression. Des fois, je me retiens pleurer et je me dis, pourquoi je veux pleurer là? Je veux pleurer parce que j'ai ma fille et tout. Et en fait, tellement d'émotions, tellement de. Je sais pas, je trouve ça tellement puissant, en fait, le lien qui unit un enfant et, bah, pour le coup, ma fille et moi. Et que, je sais pas, des fois j'ai l'impression que, toi, des fois je me dis même comment tu peux supporter autant de. Tu vas l'impression, genre je vais exploser parce que c'est trop.
Ouais, je
Je sais
vois
pas si
ce
tu
que
vois
tu
ce
veux
que je
dire.
veux dire. Et puis tu sais, quand tu la regardes et qu'elle sourit, que tu penses ça et qu'en plus elle sourit derrière, tu vas. Mais non, non, je suis très, 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 très fan de ma copine, comme je l'appelle.
Non, non, c'est trop mignon. Non, c'est vrai, c'est indescriptible. Vraiment, c'est indescriptible. Et je le dis tout le temps à chaque épisode, quasiment, mais je souhaite ça à toutes les femmes qui le souhaitent, qui ont ce désir de maternité, mais c'est quelque chose que je leur souhaite fois 1000, parce que c'est vraiment beau, quoi.
Vraiment, tu le découvres quand tu le vis vraiment. Après, je sais pas, moi je suis quelqu'un de très je suis pas sentimentale, pas expressive et tout ça. Je vais pas dire que je suis froide parce que j'aime beaucoup les gens et tout, mais je suis pas là à dire tout le temps je t'aime, machin et tout ça. Tu vois, à dire les compliments, j'ai du mal à les prendre et tout. Mais alors, pour le coup, avec ma fille, c'est ouf.
T'as pas de
Vraiment,
filtre.
c'est ouf que. Ouais. Et comme tu dis, c'est indescriptible, en fait. Tu vois, même là, j'arrive pas à trouver les mots qui font que. J'arrive à ressentir la chose, mais j'arrive pas à trouver les mots pour décrire ce que je ressens, en fait.
Ouais. Et je sais même pas s'il y a des mots en fait pour pouvoir décrire. C'est ça la question en fait, justement. Est-ce que dans tous les cas, c'est descriptible que tu trouves les mots ou pas, tu vois?
En plus, enfin, pour le coup, bon, j'ai encore de la chance, c'est encore un privilège, mais tu vois, elle dort hyper bien, elle mange très bien, elle pleure.
Oh là
Des fois, je passe une semaine sans l'entendre pleurer. Enfin, elle est
là.
hyper calme, bah, un peu comme moi en fait. Elle n'est pas
Ouais.
très stressée, elle est hyper calme. Et du coup, ça rend le truc encore plus. Enfin, c'est vraiment incroyable, quoi. Et ouais, non, ouais, je suis assez fan d'elle.
Non, mais de toute façon, moi, j'ai noté tout ce que tu m'as dit. Donc, tu as fait ta grossesse au Sénégal en mode chill, tranquille, il n'y avait pas de problème. Tu as été voir un
L'acupuncture.
voilà, tu as été faire de l'acupuncture, on appuie sur le point du bébé zen.
Ben.
Je note toutes ces petites astuces-là parce que pour le coup, si on peut avoir une grossesse, un accouchement et un bébé comme le tien, c'est génial, quoi.
La dernière fois, je regardais les photos. Ma soeur m'envoyait des photos de quand on était en. Parce que du coup, on était enceinte en même temps.
Ouais.
Donc, on se renvoyait des photos. Et je regardais, et j'avoue, je suis pas nostalgique de ce ventre tout qui est sorti. Même si je suis très très fan de ma fille qui est sortie, mais je suis nostalgique de ma grossesse.
Ouais.
Voilà.
Et justement, tu veux combien d'enfants?
Alors oui, 6. Sauf que j'ai commencé à 36 ans, ce qui est
Ouais.
un peu tard. Donc les 6, je pense que. Après, comme on dit chez nous, c'est Dieu qui donne, mais.
Exactement.
Écoute.
Ouais, c'est Dieu qui donne et là il y a la science hein, qui peut t'aider.
C'est vrai, mais quand j'étais plus jeune, j'en voulais tout ça.
Ouais. Parce que vous êtes six, justement, six enfants.
Je trouve que c'était bien.
Ouais.
Puis en plus, nous, on est trois filles, trois garçons, donc c'est l'équilibre parfait, tu vois.
Ah, moi aussi.
Trop marrant.
Ouais, bah non, c'est cool. Ouais, pareil chez moi, on est six enfants et c'est trois filles, trois garçons. Donc oui, il y a toujours eu deux équipes. Et au final, c'est vrai que si j'en ai la possibilité, c'est quelque chose que je souhaite à tout le monde. Mais je sais que moi, personnellement, je n'en aurais pas la force.
Je dis
En tant
peut-être
que
ça parce que
mère.
ça se passe bien. Parce que ma soeur, pareil, sa première petite était très calme quand elle
Ouais.
était petite. Et là, la deuxième, c'est pas qu'elle est moins calme, mais elle se réveille plus, elle pleure un peu plus. Et puis en plus, quand on a une première déjà, bah, on a deux à s'occuper. Donc c'est
Oui.
différent, mais là, je prendrai ce qu'on me donne.
Je te le souhaite en
Voilà.
tout cas. Bah, c'est super. Bon.
Merci.
Bon, en tout cas, Sierra, merci beaucoup pour ton témoignage. C'était vraiment c'était cool, c'était sympa. Et puis j'ai bien aimé aussi tout l'aspect traditionnel qu'on a abordé parce que c'est pas quelque chose que j'ai forcément l'occasion de faire avec mes invités. Et pour le coup, bah, ça fait du bien aussi de se replonger dans les traditions qui sont les nôtres parce que je suis d'origine sénégalaise comme toi et de les partager aussi à d'autres mamans qui ne les connaissent pas.
Surtout, on parle tellement du postpartum aujourd'hui que c'est ça en fait, c'est du
Ouais.
postpartum, c'est que nous, ma mère, elle ne met pas de mots sur tout ça, tu vois, tout le mois d'or, tout ce qu'on lit aujourd'hui, elle le font d'ailleurs, tu vois, tous les portages, etc., sauf qu'il n'y avait pas de mots dessus, et c'est des choses qu'il faut qu'on transmette. Toi, c'est comme quand on lit nos langues, il faut qu'on transmette nos langues et tout. Il ne faut pas que ça se perde en fait. Il ne
Ouais.
faut pas que ça se perde, il faut que nous on le transmette à nos filles elles le transmettront à leurs filles, etc.
Ok, super. Bah, Sierra, vraiment, encore une fois, je te remercie et puis on se dit à bientôt alors.
Salut.
Ciao.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager et à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ça me fera super plaisir. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram. Là-bas, je partage des phrases de motivation, des astuces au quotidien, on discute et on se construit une vraie communauté. Le nom de ma page est Ayonene Podcast. À tout de suite!